Charles et Mary Lamb, conte tiré de Shakespeare, Hamlet. Gertrude, reine de Danemark, devenue veuve par la mort soudaine du roi Hamlet, avait à peine attendu 2 mois pour convoler en seconde noces avec le prince Clodius, frère du défunt monarque. Une telle précipitation chez une reine choquait toutes les convenances. Les uns crièrent à l'indélicatesse, d'autres au manque de cœur. Il ne manqua pas de langues indépendantes qui allèrent plus loin. Ce Clodius ne ressemblait en rien au mari si cavalièrement remplacé. Il était aussi laid que le feu roi était beau, aussi vil, aussi méprisable que celui-ci était digne de respect et d'amour. On ne se gêna donc pas pour dire qu'il s'était adroitement débarrassé de son frère, dans le but d'accaparer pour lui-même et pour sa lignée le trône qui, légitimement, revenait au fils d'Hamlet. C'est surtout sur ce jeune prince que l'inexcusable action de la reine Gertrude fit une impression profonde. La mémoire de son père lui était sacrée, et il la révérait avec une sorte d'idolâtrie. Très sensible lui-même à tout ce qui touchait à l'honneur, scrupuleux jusqu'à l'excès à l'endroit de l'étiquette, des traditions et des exigences sociales, il éprouva de la scandaleuse conduite de sa mère un chagrin fort différent de celui que lui causait la mort prématurée du roi son père, mais tout aussi vif, tout aussi cuisant. Et ces deux douleurs réunies engendrèrent en lui une sombre et incurable mélancolie. Toute sa gaieté, toute la fraîcheur de sa jeunesse se voilèrent comme d'un nuage. Ses livres, naguère sa passion, perdirent pour lui tout attrait. Les exercices chers à son âge et commandés à son rang lui devinrent à charge. Le monde lui apparut bientôt comme un jardin où les fleurs avaient été étouffées sous des herbes parasites et sans charme. Et ce n'était pas la pensée qu'il pourrait bien un jour être dépossédé du trône qui l'obsédait ainsi. Sans doute pour une âme aussi fière que l'était la sienne, il était dur de se voir la victime d'une pareille indignité. Mais que sa mère eût si brusquement mis de côté le souvenir de son premier époux, voilà ce qu'il ne pouvait comprendre. Elle qui semblait ne vivre que pour le feu roi et s'attacher à ce monarque incomparable comme le lierre aux chênes majestueux des forêts, donner, moins de 2 mois après les funérailles, son cœur et sa main au frère de ce même époux, c'était à n'y pas croire. D'autant mieux qu'en soi, ce mariage était de la plus haute inconvenance et même contraire à la loi, vu le degré de parenté et le caractère de l'homme qu'elle avait appelé à partager son trône et sa couche royale. Hamlet se sentait écrasé par tant de perfidie, plus que par la perte de 10 trônes. Gertrude et le nouveau roi n'épargnaient cependant rien pour le distraire. Mais il persistait à ne venir à la cour que revêtu de ses habits de deuil. Jamais il ne s'en était séparé, pas même pour faire honneur au fait du second mariage de sa mère. Pour lui, ses réjouissances avaient eu tout le caractère d'un sacrilège, et l'on avait pu le décider à y assister. Ce qui le troublait par-dessus tout, c'était le mystère qui entourait la mort soudaine de son père vénéré. Clodius avait fait entendre qu'elle avait été causée par la piqûre d'un serpent. Mais le jeune Hamlet soupçonnait son oncle d'être lui-même, le venimeux reptile, debout aujourd'hui sur les marches du trône. De là, ces doutes affreux qui le harassaient jusqu'à la folie. Que devait-il penser de sa mère? Jusqu'où s'élevait sa complicité dans cette infâme disparition du roi légitime? Y avait-elle simplement consenti? Ou, sachant qu'il devait s'accomplir, avait-elle, oui ou non, aidé de ses mains royales à la perpétration de cet abominable crime? Depuis quelques jours, le prince entendait dire que les officiers et soldats préposés la nuit à la garde du château voyaient sur la plateforme apparaître un spectre ressemblant au monarque défunt et constamment revêtu de pied en cap de la même armure que celui-ci aimait à porter de son vivant. Horatio, l'ami de cœur du jeune prince, était de ceux qui avaient été témoins de ce fait singulier. D'accord avec ses camarades, il affirmait que le fantôme se montrait dès que 12 heures sonnaient au beffroi du palais. Pâle, la face plus attristée que colère, le spectre ne répondait à aucune des questions que lui adressaient les gardes tremblants. Une fois, cependant, il avait relevé la tête et sa belle barbe noire, semée de fils d'argent, comme le sable d'un blason, avait remué comme s'il eût fait effort pour parler. Mais tout à coup, un coq avait entonné son chant matinal et l'étrange apparition s'était évanouie. De tous ces témoignages, Hamlet conclut que le fantôme avait à faire quelques communications et ne la ferait qu'à lui seul. Il résolut donc de faire partie lui-même de la garde de nuit et la rejoignit, par un froid très vif, avec Horatio et le soldat Marcellus. Soudain, comme il s'entretenait de la température qui les gênait jusqu'aux moelles, Horatio montra du doigt une majestueuse forme blanche qui s'avançait sur la terrasse du palais. Muet de surprise et de terreur, Hamlet n'en put d'abord croire ses yeux. Mais, rappelant bientôt tout son courage, et reconnaissant son père qui le regardait avec une navrante tendresse, il s'écria « Ô roi, ô Hamlet, pourquoi avez-vous quitté votre tombe où nous vous avions si tendrement couché? Pourquoi visitez-vous à nouveau, à la clarté de cette lune blafarde, la terre où vous avez régné? Père bien-aimé, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que votre âme jouisse de l'éternelle paix ?» Lentement, le spectre fit signe à son interlocuteur de le suivre dans quelque endroit solitaire où il pourrait l'entretenir en secret. « Prenez garde, prince !» intervinrent Horatio et Marcellus. « C'est peut-être un méchant esprit. Peut-être va-t-il vous attirer vers la mer ou sur le sommet de quelque affreux rocher et là revêtir quelque horrible forme pour vous priver de votre raison. » Mais le jeune homme tenait trop peu à la vie pour se laisser ébranler par leurs supplications. Quant à son âme, immortelle comme celle qui était là devant eux, qu'avait-elle à redouter? Et, se sentant au cœur une vaillance surhumaine, il s'arracha aux étreintes de ses compagnons et suivit le fantôme. Alors, quand ils furent bien seuls, celui-ci rompit le silence. « Je suis, dit-il, le spectre de ton père, cruellement mis à mort par Claudius, ton oncle, jaloux de ma couronne et qui aspirait à ma couche royale. Pendant que, selon ma coutume, je dormais une après-midi dans mon jardin privé, il s'est traîtreusement glissé jusqu'à moi et m'a versé dans les oreilles le jus de la vénéneuse justiame, l'un des végétaux les plus redoutables pour l'homme. Rapide comme la foudre, le poison a envahi mes veines, me brûlant le sang et répandant sur ma peau les plaques hideuses de la lèpre. La main même de mon frère me ravit ainsi, pendant mon sommeil, ma couronne, ma reine, ma vie. Si jamais tu m'as aimé, Hamlet, venge ma mort. Venge l'affront que me fait ta mère en épousant mon meurtrier. Mais ne me venge pas sur elle. Laisse-la à la merci de ses remords et remettons-nous au ciel du soin de la punir. « Je vous obéirai, mon père, » promit Hamlet. Et le fantôme disparut. Resté seul, Hamlet se jura solennellement de tout oublier désormais et de ne conserver d'autre souvenir que celui des ordres qu'il venait de recevoir. Horatio fut l'unique confident de la conversation que nous venons de rapporter. À lui comme à Marcellus, Hamlet enjoignit le secret le plus absolu sur ce qu'ils avaient vu pendant cette mémorable nuit. Tant d'émotions, s'ajoutant coup sur coup à ses chagrins et à ses insomnies, conduisirent rapidement le jeune prince aux confins de la folie. Un instant, il crut que réellement sa raison allait lui échapper. Il n'en fut rien, cependant, mais craignant de devenir pour son oncle un objet de soupçon et de le mettre ainsi sur ses gardes, il résolut d'agir ostensiblement, comme s'il avait en effet perdu l'esprit. Il espérait que Claudius en arriverait à le croire incapable d'aucun projet sérieux et finirait par ne plus rien redouter de ce qu'il prendrait pour une inoffensive démence. Il contrefit si bien l'insensé, dans son langage comme dans sa mise et dans sa conduite, que Claudius et Gertrude s'y trompèrent tous deux. Mais comme ils ignoraient l'apparition du spectre, ils s'imaginèrent que l'amour, et non le chagrin, avait troublé la cervelle d'Hamlet. Bien plus, ils crurent avoir trouvé l'objet de sa passion dans Ophélia, fille de Polonius, le plus éminent des conseillers du palais. Avant ses premiers accès de mélancolie, le prince avait, en effet, témoigné pour cette belle jeune fille une admiration qui tenait de l'enthousiasme. Il lui écrivait souvent et lui envoyait des présents magnifiques. Ophélia n'était pas restée insensible à d'aussi honorables assiduités. Mais depuis le meurtre de son père, Hamlet l'avait négligé. Ce fut bien pis lorsqu'il se fut décidé à contrefaire la folie. Alors il affecta de la traiter avec rudesse. Pauvre ami, se disait la compatissante Ophélia, c'est la maladie, et non l'inconstance, qui le fait en agir ainsi avec moi. Sa belle âme ressemble à ces cloches harmonieuses qui, bien dirigées, remplissent les airs de délicieux refrains, mais déchirent les oreilles de sons discordants si on les balance maladroitement et sans mesure. Tout absorbé qu'il fût par ses projets de vengeance, Hamlet ne s'aperçut pas moins de la douleur que causait à Ophélia son apparente cruauté. Pour lui, qui ne rêvait plus qu'au moyen de faire disparaître de la scène du monde l'homme qui lui avait tué son père, l'amour et les délicates attentions envers l'objet aimé paraissaient aujourd'hui choses bien oiseuses. Mais il ne put résister, un jour, au désir de consoler quelque peu la douce créature qu'il adorait, et dans un élan de folle passion, il lui fit porter une lettre des plus extravagantes, telle d'ailleurs que le lui permettait son état prétendu d'insanité, mais où perçait ça et là la profonde tendresse dont débordait son cœur. « Chère Ophélia, écrivait-il, libre à vous de croire que les étoiles ne recèlent ni chaleur ni lumière, que le soleil reste immobile dans l'océan des cieux et que la vérité n'est que mensonge. Mais ne doutez jamais de l'immensité de mon amour. » En fille respectueuse et sage, Ophélia montra cette lettre à son père, qui, lui, se considéra comme tenu de la communiquer au roi et à la reine. Dès ce moment, les deux souverains ne doutèrent plus que l'amour ne fût la cause des excentricités du jeune prince, et Gertrude s'en montrait heureuse. « Si les charmes d'Ophélia, disait-elle, ont ainsi affecté mon fils, pourquoi les vertus de cet ange égaré sur la terre ne finiraient-elles pas par le guérir ? Une pareille cure leur ferait honneur à tous deux. » Mais la maladie dont souffrait Hamlet n'était pas de celle que guérit l'amour. Le fantôme de son père le suivait partout. Partout, il entendait la voix d'outre-tombe qui lui avait ordonné de punir un assassin. Et chaque heure de retard dans l'exécution de cet ordre lui paraissait un crime de lèse-majesté et de mépris des injonctions paternelles. Tuer le roi, constamment entouré de ses gardes, n'était cependant pas chose facile. La présence de la reine, qui presque partout se montrait avec Claudius, était aussi un obstacle pour Hamlet. Mettre à mort une créature humaine répugnait à ce prince naturellement doux et miséricordieux. Mais plonger sa dague dans le cœur de l'homme qui, après tout, était le mari de sa mère, lui paraissait plus horrible encore. Et puis son habituelle mélancolie, l'abattement d'esprit dans lequel il s'était longtemps complu, avait comme émoussé sa virilité et le faisait flotter à tous les vents de l'irrésolution. Enfin, il lui venait de temps à autre des scrupules sur l'identité du spectre qui lui avait apparu. Était-ce bien celui de son père ? D'après ce qu'on lui avait enseigné, l'esprit du mal pouvait revêtir mille formes diverses. N'était-ce pas cet esprit pervers qui avait choisi ce moyen de le pousser au crime et de le perdre à jamais ? Je puis être le jouet d'une chimère, se dit-il un jour. J'attendrai que quelque événement plus concluant vienne m'éclairer dans cet affreux dédale. Le hasard voulut qu'il vînt alors à la cour une troupe d'acteurs que, jadis, le jeune prince aimait beaucoup à entendre. Surtout dans un monologue fort tragique où était décrite avec talent la mort du vieux Priam, roi de Troie, et l'inconsolable douleur d'Hécube, sa femme, mère du vaillant Hector. Hamlet fut charmé de revoir ses vieilles connaissances et demanda à entendre de nouveau le récit qu'il affectionnait tant. Trop heureux de plaire à son royal ami, le tragédien se surpassa lui-même. Avec une mimique des plus expressives et une merveilleuse puissance d'élocution, il fit revivre devant Hamlet l'horrible scène de l'assassinat de Priam, affaibli par l'âge et se cramponnant pour attendrir le cruel Pyrrhus aux angles de l'autel de ses dieux l'art. Puis il dépeignit Troie en flammes, son peuple massacré, la reine Hécube, au désespoir, se sauvant nu-pied à travers les chambres de son palais embrasé, n'ayant qu'un misérable haillon pour couvrir sa tête, naguère si belle sous sa royale couronne, et une couverture grossière ramassée à la hâte pour protéger les formes divines qu'avaient voilées tant de riches étoffes et de manteaux éblouissants. Hamlet, tous les spectateurs, l'acteur lui-même, étaient émus jusqu'aux larmes. La voix de ce dernier était littéralement brisée par les sanglots. « Eh quoi ? » se dit le prince. Voilà un homme qu'un récit purement imaginaire suffit à exalter à tel point qu'il verse de vrais pleurs sur la mort d'un roi qu'il n'a jamais vu, sur une reine disparue depuis des siècles. Et moi, qui ai tant d'impérieux motifs pour m'émouvoir, moi qui ai vraiment perdu par le crime d'un infâme et mon père et mon roi, je croupis dans une apathie honteuse qui ressemble à un oubli volontaire de mes devoirs les plus sacrés. Et tout à coup, le souvenir lui revint d'un meurtrier qui, voyant au théâtre une scène d'assassinat prise sur le vif, confessa sur le champ son crime. Il ordonna aussitôt que l'on préparât une tragédie dans laquelle sa troupe favorite représenterait devant son oncle quelque chose de semblable à l'empoisonnement de son père. Lui, sans que personne s'en doutât, épirait sur le visage de Claudius l'effet de ce coup de théâtre et acquerrait ainsi une certitude morale de la culpabilité de cet usurpateur. La pièce faite, il invita le roi et la reine à la représentation. Au jour dit, Claudius, Gertrude, toute la cour assistait au spectacle. Hamlet, affectant l'indifférence, se tenait près du roi qui ne se doutait nullement du piège tendu à sa conscience et à ses remords. Le drame se passait à Vienne et roulait sur le meurtre du duc Gonzago. Au premier acte, Battista, femme de Gonzago, lui faisait 1000 protestations d'amour éternel. « Si le ciel, disait-elle, venait à vous arracher à ma tendresse, jamais je ne me remarierai. Bien plus, je ne crois pas qu'il me fût possible de vous survivre, mais que je sois maudite si jamais je reprenais un mari. Il n'y a, pour commettre une action si basse, que les femmes sans cœur qui tuent leur premier époux. » Claudius changea de couleur, et la reine faillit s'évanouir. Rien de tout cela n'échappait à Hamlet. Mais ce fut bien pire quand un certain Lucianus, l'un des proches parents de Gonzago, vint empoisonner celui-ci pendant qu'il dormait dans son jardin. « Des torches ! Des torches ! » s'écria Claudius, se dressant soudainement comme s'il eût été piqué par un aspic. « Qu'on me reconduise à mes appartements !» Et il quitta brusquement le théâtre, prétextant une indisposition subite qui pouvait bien d'ailleurs n'être que trop réelle. Claudius partit, la pièce fut naturellement interrompue aussitôt. Hamlet n'en demandait pas davantage. Il savait maintenant, à n'en plus douter, que le spectre avait dit vrai. Et il se sentit envahir par une joie étrange. « Ami, dit-il à Horatio, me voici tout rajeuni, et je parierai 1000 livres que la parole du fantôme vaut mon poids d'or. À mon tour, maintenant, l'heure du châtiment est enfin venue. » Mais avant qu'il eût pu aller plus loin dans son œuvre de vengeance, il fut mandé par la reine qui désirait l'entretenir seul dans ses appartements particuliers. Cette entrevue avait été exigée par Claudius. Le roi voulait que Gertrude témoignât à son fils du vif déplaisir qu'ils éprouvaient, elle et lui, de sa conduite et de ses bizarreries passées. Et il avait chargé Polonius, vieux diplomate sans principe et qui n'était pas fâché d'être mis au courant des secrets de la cour, de se cacher derrière les draperies, d'où il pourrait tout entendre, afin de faire ensuite à son maître un rapport fidèle de ce qui s'allait dire dans cette rencontre de la mère et du fils. Gertrude vint droit au fait et fit à Hamlet d'amères reproches. « Savez-vous, lui dit-elle sans ménagement, que vous avez vivement mécontenté votre père ?»« Mon père ? » s'écria Hamlet, indigné d'entendre ce titre vénéré appliqué au misérable Claudius. « Mon père ? C'est vous, madame, qui l'avez offensé. » « Voilà une réponse bien sotte, fit la reine. « Une réponse digne de la demande, riposta le jeune prince. « Oubliez-vous à qui vous parlez ? Hélas, je ne demanderai qu'à l'oublier. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari. Malheureusement, vous êtes aussi ma mère. Plût au ciel que vous ne la fussiez pas. « Si vous continuez, dit Gertrude, à me témoigner si peu de respect, je vous enverrai d'autres interlocuteurs. Je vais quérir le roi ou Polonius. » Mais Hamlet ne l'entendait pas ainsi. Maintenant qu'il était seul avec sa mère, il ne voulait pas qu'elle le quittât sans qu'il eût tenté de la rappeler au sentiment du devoir. Il la saisit donc par le poignet et, de sa main de fer, la força à se rasseoir. Épouvanté de tant d'audace et craignant qu'il ne fût vraiment en proie à un accès de folie furieuse, Gertrude poussa un grand cri. Un autre cri sortit de derrière les rideaux. Au secours de la reine !»« Infâme !» hurla Hamlet, qui crut que le roi lui-même se dissimulait derrière les tapisseries. « Tu mourras aujourd'hui de ma main !» Et tirant son épée, il les transperça jusqu'à ce que tout bruit ayant cessé, il conclut que Clodius était mort. Mais quand il retira le cadavre de sa cachette, il reconnut qu'il avait tué Polonius. « Malheureux !» exclama la reine, « quelle abominable et sanglante action vous avez commise là !»« Sanglante, en effet, madame, » répliqua Hamlet, « mais pas aussi abominable que celle que vous avez commise vous-même en tuant un roi et en épousant son frère. » Il avait été trop loin pour s'arrêter là. Il se sentait décidé à parler sans détour, et il le fit. Sans doute, les fautes des parents doivent être traitées avec ménagement par ceux à qui ils ont donné le jour. Mais il y a des crimes qu'un fils est excusable de stigmatiser, comme il le mérite, même devant sa mère, surtout s'il se propose par là de la ramener dans les voies de la réparation et de la justice. « Pourquoi faut-il, ô reine, dit Hamlet, que vous ayez donné au monde d'aussi détestables exemples ? En vous voyant oublier si vite vos protestations d'éternelle fidélité, les hommes ont perdu la foi aux promesses de leur compagne. Voulez-vous donc que nous taxions la vertu d'hypocrisie, le serment de mensonge, la religion de comédie digne des pitres forains et de leurs boniments trompeurs ? Devant votre monstrueuse alliance avec le meurtrier de votre époux, le ciel a rougi de honte et le cœur de l'humanité s'est soulevé de dégoût. Vous aviez pour mari le meilleur et le plus beau des hommes, son front majestueux comme celui de Jupiter. Sa noble tête qu'encadraient des boucles luxuriantes de cheveux aussi soyeux que ceux d'Apollon. Son regard qui jetait des flammes comme les yeux du dieu Mars. Son port aussi noble, aussi gracieux que l'attitude de Mercure, lorsqu'il pose son pied léger sur le sommet d'une de ces hautes cimes qui semblent baiser les cieux. Tout le faisait ressembler aux puissantes divinités de l'Olympe. Et qui avez-vous mis à sa place ? Un être hideux et méprisable, dont le souffle empoisonné, semblable à ces vents brûlants qui dessèchent et ruinent les moissons, a tari les sources de la vie chez le plus magnanime des rois. « Grâce, grâce !» implora Gertrude. « Jamais je n'avais vu mon âme aussi noire et aussi difforme. »« Grâce !» répéta ironiquement Hamlet. « Vous ne pouvez songer au pardon tant que vous continuerez à vivre avec ce monstre, tant que vous partagerez la couche de l'assassin de votre mari et du voleur de sa couronne. » Comme il achevait ces mots, le spectre de son père entra dans la chambre, tout semblable au feu roi alors qu'il était dans toute la splendeur de sa virilité. « Mon fils, dit le fantôme au jeune homme, frappé de terreur, où est la vengeance que tu m'avais promise ?» Et il disparut. Hamlet resta un moment comme cloué au sol, le doigt tendu vers la funèbre apparition, et la décrivant à sa mère, qui n'apercevait rien et tremblait comme la feuille, à la pensée que son fils était réellement fou. Bientôt remis de son émotion, le prince comprit ce qui se passait dans l'esprit de la reine. « Ce n'est pas ma prétendue folie, mais votre double crime, lui dit-il, qui ramène ici l'esprit de mon père. Touchez mon pouls. Est-ce celui d'un homme hors de sa raison ? N'est-il pas calme et régulier ?» Et les larmes aux yeux, il la supplia de s'humilier devant la divinité et d'éviter à l'avenir la société du roi. « Prouvez, ajouta-t-il, en respectant la mémoire de mon père, que vous êtes encore une mère pour moi, et je me jetterai à vos pieds en fils dévoué pour solliciter votre bénédiction. » Gertrude promit de lui obéir, et Hamlet se retira. Et quand il fut seul et songea au père de la pauvre Ophélia, tué par lui pendant cette terrible entrevue, il pleura amèrement. Clodius saisit avidement le prétexte que lui fournissait la fin tragique de son conseiller intime pour faire quitter le Danemark au jeune prince. Volontiers, il l'eût fait mettre à mort, mais il redoutait la colère du peuple qui aimait l'héritier légitime du feu roi et la reine dont la dureté de cœur ne s'étendait pas jusqu'au prince son fils. Il feignit donc de craindre pour la sécurité d'Hamlet dans ses états à cause du meurtre de Polonius et le fit embarquer sur un navire qui se rendait en Angleterre, alors vassal et tributaire du Danemark. Deux courtisans sans scrupules accompagnaient l'auguste voyageur et devaient remettre à la cour britannique des lettres de Claudius la requérant, pour des raisons d'État, de faire mettre à mort l'infortuné jeune homme dès qu'il aurait mis le pied sur le sol anglais. Mais Hamlet, soupçonnant quelque noir complot contre sa vie, parvint pendant la nuit à se procurer les lettres fatales, y effaça son nom et lui substitua ceux des deux misérables chargés de l'assassiner. Cela fait, il scella de nouveau les ordres de Claudius et les remit où il les avait pris. Pendant la traversée, le vaisseau qu'il montait fut attaqué par des pirates. Heureux de cette occasion de prouver sa vaillance, Hamlet se précipita, seul, l'épée à la main, à la rencontre des écumeurs de mer qui abordaient son navire, et les frappa d'admiration par sa bravoure. Lâches jusqu'au bout, les deux courtisans ordonnèrent à leurs matelots de pousser au large, et, abandonnant le prince à son sort, firent précipitamment voile vers l'Angleterre, avec les lettres qui contenaient, sans qu'ils s'en doutassent, leur propre arrêt de mort. Les pirates surent bientôt qui ils avaient pour prisonniers et traitèrent Hamlet avec d'autant plus de considération qu'ils espéraient obtenir ses bons offices au cas où il viendrait à avoir quelque démêlé avec la justice danoise. Et, ayant bientôt atteint l'un des ports du Danemark, ils l'y firent débarquer sain et sauf. De là, le prince écrivit à Claudius pour lui faire savoir qu'il se présenterait à la cour dès le jour suivant. Un désolant spectacle l'attendait à son arrivée. La jeune et belle Ophélia, qu'il avait tant aimée, n'avait pu supporter le choc donné à sa raison par la fin tragique et prématurée de son père. À la pensée que Polonius avait péri de mort violente, et de la main même du prince qu'il avait si ardemment courtisé, elle était devenue folle, mais d'une folie douce et inoffensive. Elle passait son temps à offrir aux dames de la cour des fleurs destinées, disait-elle, à orner le cercueil de son père. Elle s'en allait de ci, de là, chantant des chansons d'amour et de deuil, qui parfois étaient dénuées de sens, sa mémoire ayant sombré dans la tempête de son désespoir. Un jour, elle trompa la vigilance de ses gardiens, s'en vint près d'un seul pleureur, dont les rameaux éplorés pendaient au-dessus d'une petite rivière qui les reflétait dans son cours limpide, et se hissa sur l'une des branches pour y suspendre des guirlandes de marguerites et d'orties. Tout à coup, le frêle support se brisa, et l'infortunée tomba dans le courant. Ses vêtements la retinrent un instant au-dessus de l'eau, et elle modulait, la pauvre petite, quelqu'une de ses monotones ariettes, sans songer que la mort s'apprêtait à la saisir. Puis elle disparut, et c'était le triste cortège de ses funérailles qui défilait devant Hamlet quand celui-ci arriva en vue du palais de Claudius. Le roi, Gertrude, toute la noblesse suivait la funèbre procession, derrière Laerte, frère d'Ophélia, qui menait le deuil. Tout d'abord, le prince ne se douta pas que l'on conduisait à sa dernière demeure, celle dont il avait si souvent rêvé de faire la compagne de son existence. Et, ne voulant pas troubler la cérémonie, il y assista inaperçu et sans mot dire. Mais bientôt il vit la reine elle-même jeter dans la fosse fraîchement creusée les fleurs que l'usage voulait que l'on répandît sur le cercueil des jeunes vierges. Puis il l'entendit s'écrier « Rose parfumée, allez rejoindre cette rose qui n'est plus. Charmante enfant, c'est ton front de fiancée que j'aurais aimé à couvrir de fleurs. Tu aurais dû vivre pour être l'épouse de mon Hamlet. » Le malheureux comprit alors combien la fatalité lui était implacable. Et Laerte, fou de douleur, ayant sauté dans la fosse, en criant au fossoyeur de l'ensevelir sous la même terre que sa bien-aimée Ophélia, Hamlet n'y tint plus et bondit près du jeune homme qui, le reconnaissant, le saisit à la gorge et l'eût infailliblement étranglé comme meurtrier de Polonius si les spectateurs de cette horrible scène ne se fussent interposés. Plus tard, Hamlet s'excusa auprès de Laerte et celui-ci, comprenant que le prince n'avait pas voulu le braver dans cette singulière occurrence, lui pardonna, du moins en apparence. Claudius ne pouvait, en effet, manquer d'exploiter cet incident au profit de la haine qu'il portait à son neveu. Aussi poussa-t-il le fils de Polonius à défier Hamlet à un assaut d'armes, sous prétexte de faire admirer à la noblesse l'habileté du prince à manier le fleuret. Hamlet accepta avec empressement. Au jour dit, devant toute la cour, les deux champions s'alignèrent. Mais Laerte, par ordre du roi, avait négligé de boutonner son fleuret et en avait trempé préalablement la pointe dans un poison des plus violents. De grands paris s'étaient engagés entre les courtisans sur l'issue de cette rencontre soi-disant amicale. Tout d'abord, Laërte laissa l'avantage à son adversaire, aux applaudissements de Clodius, qui, avec une dissimulation satanique, portait des toasts à son cher neveu et pariait des sommes extravagantes sur son succès final. Mais bientôt, Laërte revint à son rôle d'assassin et, se précipitant sur Hamlet, lui porta une botte furieuse et mortelle. Le prince, outré de cette perfidie, se saisit de l'arme de son déloyal ennemi et l'en perça à son tour. Au même moment, un cri terrible retentissait. C'était Gertrude qui l'avait poussé. Elle venait, sans le savoir, de vider une coupe empoisonnée que Clodius, en scélérat prévoyant, avait préparée pour Hamlet au cas où celui-ci eût été vainqueur. La reine expira presque instantanément au milieu d'atroces convulsions. Hamlet comprit qu'il était tombé dans un piège abominable et ordonna que l'on fermât toutes les portes jusqu'à ce qu'il eût le mot de cette horrible énigme. Laërte, qui se sentait mourir, confessa son crime et l'ordre infâme qu'il avait reçu du roi. « Prince, dit-il à sa victime, vous n'avez plus qu'une demi-heure à vivre. La science humaine ne peut rien pour vous. Pardonnez-moi. » Et il expira. « Misérable !» hurla Hamlet en se jetant sur Clodius et en le frappant droit au cœur. « Il y a encore au bout de cette arme assez de poison pour toi. Meurs donc et que mon père soit enfin vengé. » Puis, se tournant vers son fidèle Horatio, qui lui aussi voulait se percer de son épée, « Ami, lui dit-il, vis et jure-moi que tu diras au monde tout ce qu'a souffert le malheureux Hamlet. » Et Horatio, tout en larmes, lui ayant juré de lui obéir, le noble prince rendit l'esprit.